Bonjour à tous, merci de Auréal de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je ne vais pas parler de la précarité énergétique puisque j'ai changé depuis quelques années d'objet de recherche. Je vais vous parler, alors si je suis redondante avec ce qu'a dit ma collègue Valérie ce matin, s'il vous plaît, dites-le-moi. Je vais vous parler d'une étude qui s'appelle l'étude FOSS-FCH. Donc, c'est une étude participative en santé et environnement ancrée localement. C'est le sigle de FCH. Vous allez le voir sur toutes les diapos, donc vous pourrez le noter. Alors, avant de commencer l'intervention, je vais plutôt vous préciser à la fois mes objectifs et d'où je parle aussi, puisqu'en fait, aujourd'hui, je vais vous décrire et vous présenter un projet de recherche et ses méthodologies participatives. Et notamment, je vais aussi me focaliser sur quelques éléments de l'application en fait, des méthodologies participatives pour qu'on rentre un peu dans la boîte noire de cette manière de travailler scientifique. Et donc, je ne me focaliserai pas sur un concept que je déconstruirai, etc. La question de la vulnérabilité, alors elle ne va pas non plus être clairement explicitée ici. Néanmoins, vous verrez qu'elle sera perceptible en filigrane au fur et à mesure de ma présentation. Bon, juste pour la petite introduction, quand même, vulnus, ça veut dire celui qui peut être blessé. Et donc, on verra à Foss et dans le bassin de l'étang de Berre, en fait, comment on est blessé au fur et à mesure. Alors enfin, je voudrais préciser ma position qui est particulière et qu'il ne faut pas nier dans cette présentation, puisque je vais vous présenter un projet de recherche que j'ai mené en collaboration avec des collègues, mais ce projet de recherche a une position assez particulière, vous allez voir, puisqu'il est particulièrement impliqué et appliqué sur un territoire. Donc je serai juge et partie quand vous me poserez les questions, mais j'essaierai d'assumer cette position de manière la plus objective possible. En tout cas, j'essaierai d'objectiver ma subjectivité dans ce cadre. Alors, juste pour vous présenter ma présentation, donc je vais vous présenter brièvement le projet et son histoire. Ensuite, je vous présenterai un peu la boîte noire, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une certaine méthodologie qui sont les ateliers collaboratifs. Et ensuite, si on a le temps, je reviendrai sur le cadre théorique de la recherche participative. Donc, l'équipe de recherche, c'est assez important, elle est interdisciplinaire. Donc, des sociologues, anthropologues travaillent avec un ou deux épidémiologistes dans une dimension où, en fait, on va croiser les méthodes classiques qualitatives de recherche en sciences sociales et les méthodes classiques quantitativistes de recherche en épidémiologie. La directrice scientifique est américaine, donc elle ne réside pas sur le territoire français. Le projet est soutenu par l'ANSES. Et cette directrice scientifique qui s'appelle Barbara Allen est sociologue, mais elle est plus spécifiquement sociologue de la connaissance, voire sociologue de l'ignorance, c'est-à-dire de la manière dont on peut produire ou non de l'ignorance dans le cadre des controverses environnementales. À l'origine, on avait Alison Cohen qui était notre épidémiologiste pour le premier volet, puisqu'on a deux volets, je vais vous l'expliquer tout de suite après. Ma collègue Yolaine Ferrier qui est anthropologue, qui a été chargée de la communication et enquêtrice, et moi-même, qui suis socio-anthropologue, qui était enquêtrice pour le premier volet et qui suis maintenant en charge du second volet, qui se déroule à Saint-Martin-de-Crau. Je vais y revenir. Alors, juste pour que vous ayez quelques éléments de l'enquête et du projet, pour qu'on sache de quoi on parle, j'y reviendrai dans la petite histoire du projet FOSS-FCH, mais il y a eu plusieurs temps. Il y a eu une pré-enquête réalisée par Barbara Allen dans la zone de l'étang de Berre qui a fait 40 entretiens auprès d'un ensemble d'acteurs tels que des représentants de l'État, la DREAL, des ARS, des militants associatifs, des habitants et des médecins locaux, mais j'y reviendrai ensuite. Ensuite, on a le projet FOSS-FCH donc, qui a eu lieu à Foss-sur-Mer et à Port-Saint-Louis que dans celui-là que je vais vous décrire en profondeur aujourd'hui. Ensuite, il y a eu la poursuite du projet FOSS-FCH que j'ai fait moi-même dans la zone de l'étang de mer auprès des travailleurs, notamment de la CGT, où je les ai invités à analyser les données avec moi. Et ce projet était financé par la Fondation de France. Et enfin, il y a le deuxième volet Fosse FCL qui se déroule à Saint-Martin-de-Crau. Saint-Martin-de-Crau qui est à une trentaine de kilomètres au nord de Fosse-sur-Mer et qui est très connu pour son foin. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que le projet Fosse FCL ? C'est l'objectif du projet Fosse FCL, c'est de décrire la santé des habitants de Fosse-sur-Mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône en lien avec leur environnement. En gros, on fait une photographie à un instant T de l'état de santé de la population. Alors, on s'appuie sur les connaissances locales des habitants qu'on considère comme des experts, on va y revenir. On utilise une approche générale de recherche participative à la fois pour répondre aux questions des habitants, analyser les données produites par l'étude et proposer des recommandations à destination des pouvoirs publics. L'étude, elle est interdisciplinaire, donc elle mêle les sciences sociales et la santé publique. Si vous avez des questions sur ce sujet, j'y répondrai volontiers. Et donc, c'est une équipe de recherche qui est indépendante. Alors, le mot indépendante, il peut vous apparaître anodin à vous qui êtes des chercheurs à l'université, etc. Mais en général, on le présente aux habitants, puisque pour les habitants, vous allez voir, l'indépendance est essentielle dans le contexte de la zone de l'étang de Berre. Et donc l'étude, elle est financée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour l'environnement, l'alimentation et le travail. Alors les objectifs, c'est de faire un questionnaire qui est fondé sur les contributions des habitants, des médecins et des experts locaux, afin de décrire de manière quantitative et qualitative les questions posées de santé. Donc, Barbara, avant de faire l'enquête, elle a posé des questions aux habitants et aux médecins sur notamment des pathologies ou des pratiques qui pouvaient avoir cours dans la zone de l'étang de Berre pour les insérer dans le questionnaire de santé publique qu'on a fait passer. Donc, l'idée, c'est de documenter la santé des habitants de manière représentative et c'est produire des connaissances nouvelles en santé et environnement dans des zones exposées à la pollution en collaboration avec les habitants. Alors, outils et méthodes. Donc, je vous disais, l'idée, c'est d'avoir une photographie de la santé des habitants. Comment on fait ? Eh bien, on s'attache à décrire des indicateurs de prévalence. Alors, qu'est-ce que la prévalence en épidémiologie ? La prévalence en épidémiologie, c'est la part des personnes qui déclarent être atteintes de telle ou telle pathologie dans une population donnée. Tous les chiffres que je vais vous donner ensuite, ça va être des indicateurs de prévalence. Le mode de recueil, c'est du porte-à-porte. Donc en fait, ma collègue Yolaine Ferrier et moi, on est allé taper à toutes les cinq portes, de toutes les rues, de tout Fosse et de tout Port-Saint-Louis, et on a demandé aux habitants s'ils voulaient répondre à un questionnaire en santé et environnement. Le questionnaire, il pouvait durer entre 15 minutes et 1h30, 2h, en fonction de l'état de santé des personnes qui nous répondaient, mais aussi en fonction de leur envie ou non de discuter avec nous. Je précise que Barbara Allen, sociologue, nous a recrutés puisque Yolaine et moi sommes socio-anthropologues et que l'idée, c'était d'avoir une base de données, on va dire, assez conséquente de données qualitatives grâce à ce porte-à-porte. Pour la petite histoire, donc en fait, le questionnaire, il a été fait sur 816 personnes. Enfin, il y a 816 questionnaires qui ont été retenus, on en a fait 900. Donc, ce qui fait que Yolaine et moi, on a rencontré à peu près chacune 450 personnes du territoire, habitantes. Alors, quel type de données qualitatives et quantitatives ça nous a permis de recueillir ? On a eu des données forcément sur l'expérience de la maladie au niveau individuel, mais aussi familial et collectif. Il y a beaucoup d'histoires de la maladie qui sortent hein, quand on discute avec les habitants. On a eu beaucoup de données sur l'expérience de la population, donc avec des descriptions assez fines, des jours où ça dégaze, des manières de détourner la norme par les industriels, etc. On a eu, en tant que socio-anthropologue, ce qui était intéressant, beaucoup de données sur le rapport au pouvoir public, à l'État et aux industriels. Beaucoup de données sur l'expérience de l'environnement naturel, puisque, comme on a dû vous l'expliquer ce matin, cette zone, c'est quand même une zone très industrialisée. Hein. Il y a plus de 400 usines dans la zone de l'étang de Berre, 68 usines Seveso. Mais elle a la particularité d'être située dans ou à proximité d'un parc naturel, et les habitants de cette zone ont une habitude d'être très en lien avec leur environnement via la pêche, la chasse, la promenade, etc., etc. Ensuite, on a recueilli des données sur les déménagements sanitaires, c'est-à-dire que beaucoup de gens nous ont raconté que des personnes déménageaient pour des raisons de santé. On a eu des données sur les mobilisations autour de l'incinérateur, j'y reviendrai brièvement, les types de polluants présents dans la zone, le fonctionnement des usines et le contournement des règles. On a eu aussi des données sur les causes ou les refus d'acceptation ou de refus du questionnaire de santé. Le deuxième outil de ce processus de recherche, ce sont les ateliers collaboratifs. J'y reviendrai vraiment dans le détail dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce que les ateliers collaboratifs ? En gros, c'est des ateliers où on invite toutes les personnes qu'on a rencontrées sur le territoire, à l'exception des industriels, je vous expliquerai pourquoi ensuite, qui veulent participer aux ateliers pour analyser les données de santé qu'on a produites. Qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers ? En général, on présente un PowerPoint. Vous aurez quelques éléments du PowerPoint qu'on peut présenter aux habitants et on leur demande de réagir sur les données produites et d'analyser les données épidémiologiques dans le contexte, puisque souvent on a des données épidémiologiques, mais elles sont décontextualisées ou hors sol. Dans ces ateliers, les habitants, ils peuvent nous demander de produire des nouvelles analyses statistiques, par exemple croiser genre et cancer, ou par exemple croiser à quel âge les maladies respiratoires ont été déclenchées, etc. Donc ça, nous, on transmet à l'épidémiologiste, il fait les analyses, et puis à l'atelier d'après, on revient avec les nouvelles analyses. C'est un processus itératif. Donc ensuite, on avait évidemment des analyses autour des polluants, des conditions de travail. Par exemple, on avait un groupe de travail spécifique sur le stress à la demande des habitants. Quand moi, j'ai travaillé avec les travailleurs syndicalistes, on a travaillé sur les maladies invisibles dans la zone, certains cancers qui se déclenchaient notamment dans certaines industries, mais qui ne sont pas reconnus, par exemple, au tableau des maladies professionnelles. Et puis, donc, à chaque fois, comme je vous le disais, l'équipe, on a des devoirs un peu. C'est-à-dire qu'on doit vérifier l'état de la littérature scientifique et épidémiologique entre chaque atelier, contacter des médecins spécialistes qu'on invite à la demande des habitants. Dans les ateliers, on discute aussi sur la manière de présenter les données dans le rapport qui est à destination des habitants. J'y reviendrai après sur les écueils que ça peut présenter. Et ensuite, on peut discuter aussi des recommandations que les habitants veulent faire auprès des pouvoirs publics et sur les pistes de recherche et les suites de l'étude. Alors là, brièvement, je vous ai mis quelques types d'ateliers collaboratifs qu'on avait eus dans ce premier volet. Donc on avait un atelier sur l'infertilité, notamment sur les questions d'infertilité masculine dans la zone, sur les maladies respiratoires, sur le diabète de type 1, sur la qualité de l'air, sur les cancers, les maladies endocriniennes, le stress dans la zone, les expositions professionnelles. Alors maintenant, je vais juste vous raconter comment est né ce projet et son histoire. Barbara Allen, en 2013-2015, elle est invitée par l'IMERA, qui est un institut qui accueille des chercheurs étrangers à Marseille. Elle, comme je vous le disais, donc, elle est sociologue de la connaissance. Et donc, elle commence son travail très classique de chercheur, où elle répertorie les études et les travaux de recherche qui sont produits dans la zone. Elle va s'intéresser notamment à certaines études, je vais y revenir, notamment aux études de santé qui sont faites dans la zone. Dans le même temps, pour son travail, elle va interroger un certain nombre d'acteurs locaux, donc c'est ce que je vous disais, des représentants des ARS, de la DREAL, de la préfecture, des médecins locaux, des associatifs, etc. Et donc elle mène une quarantaine d'entretiens avec tous ces acteurs. Pendant qu'elle fait ces entretiens, donc, elle voit dans le même temps, je vous disais, des habitants, des médecins locaux, et c'est vrai que quand même il y a quelque chose qui l'étonne, c'est qu'il y a beaucoup d'habitants qui rapportent des maladies encore peu visibles par les pouvoirs publics, c'est par exemple le type des diabètes de type 1 ou des maladies auto-immunes, et beaucoup de gens racontent de manière régulière expérimenter des symptômes chroniques tels que les symptômes ORL, les maux de tête, les yeux qui piquent, etc. Donc voilà le contexte. Alors là, je vous ai fait une petite carte qui n'est pas très lisible, je crois, de la zone industrielle. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que... vous n'avez pas un petit truc rouge ? Non. C'est pas grave. En gros, donc, peut-être on vous l'a présenté ce matin, la zone ?
Oui, c'était plus...
Bon, alors si ma collègue a fait mieux que moi, je vais passer. Bon, bref, il y a la zone industrielle ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a à la fois une zone industrielle portuaire, une zone industrielle tout court, et ce que je vous disais sur le parc naturel. Donc, je reviens aux études qu'a Barbara analyse, et donc il y a environ une douzaine d'études qui ont été réalisées par les pouvoirs publics. Et dans ces 12 études, il y en a quand même deux qui montrent... Alors, il y a la première faite par l'Observatoire régional de santé en 2013. Elle montre qu'il y a quand même une surélévation de la mortalité par cancer du poumon chez l'homme de plus de 60% à Port-Saint-Louis par rapport au reste des Bouches-du-Rhône. Donc ça, c'est la mort par cancer du poumon. Et puis, il y a une autre étude qui montre une prévalence plus élevée des maladies cardiovasculaires dans la zone de l'étang de Berre. Et donc, ces deux études semblent répondre, en quelque sorte, à l'expérience des habitants. Il y a aussi d'autres études, notamment la même, là, de l'INVS, qui travaille aussi sur les cancers, les maladies respiratoires et l'asthme. Et cette dernière étude, elle ne montre pas qu'il y a de problème de surélévation de ces pathologies. Les habitants et les acteurs locaux, ils ont quand même un regard assez critique vis-à-vis de ces études, d'une part parce qu'elles ne répondent pas forcément à leur expérience à eux quotidienne, et d'autre part aussi parce que ces études, elles ne sont pas toujours diffusées dans un langage accessible et compréhensible par tous. Il y a un vrai problème de lecture. Après, je ne sais pas si vous avez déjà lu... j'espère qu'il n'y a pas d'épidémiologie dans la salle, mais des études épidémiologiques, c'est très compliqué à analyser, à comprendre et à interpréter, puisqu'on en gros vous dit oui, alors il y a peut-être un petit problème, mais peut-être que non, parce qu'il y a tel biais. Donc en fait, à la fin de la lecture, on ne sait plus vraiment quel est le résultat. Donc il y a une certaine, les habitants trouvent ça assez désagréable, ces études, puisqu'au final, ils ne savent pas quoi en conclure. Et les études en santé et environnement qui ont été communiquées n'ont pas confirmé l'hypothèse des habitants d'une prévalence plus élevée de pathologie ou d'un risque accru dans la zone. Les études, elles ont donc été jugées comme non crédibles par les habitants, et donc il y a un écart entre l'expérience quotidienne de la santé dans le bassin de l'étang de Berre et les études produites sur la zone. Alors par exemple, je vous ai mis un extrait que Barbara avait recueilli. Donc on a la directrice de la planification des risques adjointe au maire de Fos-sur-Mer qui nous dit « La plupart des habitants vous diront que les éléments pertinents n'ont pas été étudiés. Dès lors que les études sont le résultat d'une volonté humaine, pas seulement calculée à partir d'un seuil de risque, la population ne croira pas à ces études. Parce que les personnes disent qu'elles sont malades, elles ont l'impression qu'elles n'ont pas de pouvoir sur leur propre territoire, leur mer, leur air. Elles ont l'impression d'avoir été prises pour des imbéciles. Elles viennent à ces réunions publiques, mais rien ne se passe. Les résultats des études vont à l'encontre de ce qu'elles veulent, ce qu'elles pensent et ce qu'elles éprouvent. Tout ça est imposé par d'autres intérêts. » Donc cette planificatrice exprime un peu le sentiment des habitants vis-à-vis de ces études. Alors moi, je voudrais juste revenir sur... quelques éléments en fait de contexte socio-anthropologique qui vous ont sûrement été décrits ce matin, si je suis redondante, vous me dites, du rapport au monde des habitants. Donc en fait, d'un point de vue émique, les habitants ils mobilisent beaucoup le langage vernaculaire de la maladie, de la mort et du cancer. Et donc voilà ce qu'ils nous disent. Ici, je vous le dis tout net, c'est un cimetière vivant. Donc ça, c'est un malade de 55 ans. Quelqu'un d'autre, il y en a beaucoup qui meurent. Même les aveugles, ils arrivent à le voir. Quelqu'un d'autre nous dit, il nous tue pour de l'argent, il nous empoisonne, il tue la planète. Moi, je vous le dis, il faudrait appeler les Corses et mettre quelques bombes, ça ferait du bien à tout le monde. Un autre monsieur de 73 ans me dit, l'environnement, ça va nous tuer. Il me dit, regardez, moi, j'habite la rue Gabriel Péri. Ça va plutôt bien dans le contexte, puisqu'on périt tous plus vite que les autres ici. Ici, on est tous morts. Il y a 95% de malades et les autres, ils sont morts. Ici, c'est la fosse mortuaire. Alors, sur le cancer, on a aussi un langage vernaculaire assez présent sur le cancer. Ici, à Fos, on crèvera tous d'un cancer, ça c'est sûr. Ici, on creuse notre tombe à l'avance. Ici, on ne meurt plus de mort naturelle, on meurt d'un cancer. Moi, j'ai une famille, alors quelqu'un d'autre encore, 23 ans, moi j'ai une famille de cancéreux, j'ai deux oncles qui sont morts d'un cancer du pancréas. Il en a un, il avait 30 ans. Mon grand-père, il est décédé du cancer, aussi il travaillait à Lafarge. Lafarge, c'est le bâtiment à la cimenterie. Mon cousin, il est mort d'un cancer de la peau, il avait 35 ans aussi. J'ai deux cousines qui ont le cancer du sein, il en a une, on a dû lui enlever un sein. Bon, donc c'est quelques exemples, je m'arrêterai là avant que la salle se suscite, mais du coup, juste pour vous dire que le langage vernaculaire de la maladie et du cancer est omniprésent. Alors ensuite, on a dans ce contexte, et c'est important pour moi de vous rappeler le contexte un peu du point de vue émis, puisque dans les ateliers, on va devoir discuter hein, de certains antagonismes, notamment le fait que la santé est souvent mise en contrepoids de l'emploi, et ce qui pose certaines questions. Donc les habitants, ils s'inquiètent évidemment de la préservation de l'emploi dans la zone industrielle. Et quand on vient nous en tant qu'études de santé, ils se méfient de nous et ils nous disent surtout, s'il vous plaît, il y a certaines personnes hein, qui ont refusé de nous répondre parce qu'ils nous disaient, mais nous, on n'a pas envie de répondre à votre étude et puis qu'on ferme les usines. Alors, le rapport à l'emploi. Les usines, heureusement qu'elles sont là, ça fait du travail, heureusement qu'elles existent. C'est pour ça que je ne me mobiliserai pas contre les nouvelles usines. La pollution, ça aide les gens à trouver un travail. Qu'est-ce que vous voulez qu'on arrive à faire? Les usines, c'est du travail. Comment tu veux qu'on fasse? Alors un docker me dit, maintenant on a des masques au travail. De toute façon, on ne peut pas y faire grand-chose, on ne peut rien y faire. Moi, je ne souhaite pas recevoir les résultats de l'enquête. Les entreprises, elles donnent du travail. C'est sûr, elles donnent de la pollution, mais aussi, il faut donner du travail. Non, s'il vous plaît, ne dites pas que j'ai mal à la tête à cause de la pollution. C'est à cause de mes migraines ophtalmiques, parce que je ne mets pas mes lunettes. Ne dites pas ça, sinon ça va être la psychose, alors que nous, les entreprises, elles nous donnent du travail et nous ne voulons pas qu'elles ferment. Donc on voit bien hein, qu'on est quand même sur un contexte qui est un petit peu compliqué quand on fait une étude de santé environnement, puisqu'il y a cet attachement hein, aux usines via l'emploi et en même temps cette préoccupation sur la santé. Alors il y a un rapport aussi de défiance vis-à-vis de l'État et des industries. Je vous citerai juste quelques extraits. Vous avez parlé de l'incinérateur ce matin ou pas du tout? Très vite. Bon, alors juste en deux mots, dans les années 2000, Marseille, via sa mairie, a voulu mettre en place un incinérateur dans la zone industrielle ou portuaire de Fos-sur-Mer qui appartient au grand port maritime de Marseille qui est à Fos. Donc en fait, le territoire de l'État se situe sur la ville de Fos-sur-Mer et le maire de Marseille veut mettre un incinérateur sur ce territoire-là, ce qui déplaît fortement aux Phocéens et aux autres de la zone de l'étang de mer puisque ça fait une usine de plus, un pollueur de plus dans un contexte où on est déjà saturé par la pollution et d'un point de vue très symbolique, c'est vraiment l'histoire que les habitants ont l'impression de devenir la poubelle de Marseille. Donc ça a mobilisé énormément pendant des années et des années. Moi, personnellement, je n'ai pas rencontré un seul faussaire qui ne soit pas allé à une manifestation contre l'incinérateur. Et si vous voulez, l'incinérateur, en fait, il va cristalliser beaucoup d'éléments de défiance. Ça va être en fait un révélateur du rapport aux industries et à l'état des habitants. Alors voilà, une habitante me dit, quand ils voulaient mettre l'incinérateur, ils ont fait une enquête publique. Mais en fait, ils s'en foutent. Ils font semblant de nous consulter. Et ils se moquent de nous parce que nous, on était une association. L'association libre de tous bords. Et on avait demandé à ce que les industriels, ils signent au sujet de l'incinérateur une décharge, disant qu'avec l'incinérateur, il n'y aurait pas de conséquences sur la santé. Ça veut tout dire. Quelqu'un d'autre me dit. Ils nous disent pas tout, tous ces connards. Il y en a de plus en plus d'hommes qui sont stériles, qui habitent ici. Ils nous font la morale et ils nous empoisonnent. Moi, je les tuerai tous, je suis un révolutionnaire. Il y a la guerre économique, il y a la guerre psychologique. Quand la personne, elle peut pas travailler parce qu'il y a des connards qui délocalisent, il n'y a que l'argent qui compte, je les brûlerai sur un bûcher avec leur argent. Une autre habitante qui a les chimistes sur un pétrolier me dit « Je vais vous raconter une histoire. Je suis chimiste sur les pétroliers, je monte à bord. Je regarde ce qu'il se passe. On est toujours contrôlé. On va souvent à l'hôpital de Martigues pour vérifier qu'on n'a rien, qu'on n'a pas de leucémie. Un jour, il y a eu une fuite sur un pétrolier. On s'est aperçu, alors tout de suite, j'ai fait des contrôles, les tests sanguins. Ils ont vu que je n'avais rien. Mais ils n'ont pas fait les tests à tout le monde, à tous ceux qui étaient là pour le jour de la fuite. Alors moi, j'ai été dire à la direction que ce n'était pas normal, que c'était scandaleux, qu'il fallait contrôler tout le monde parce qu'il y avait un vrai danger. Voilà ce que je leur ai dit. Eh bien, ça ne leur a pas plu. Ils ont testé personne. Et moi, j'ai eu l'interdiction de monter sur le pétrolier de la compagnie pendant 2 mois. Donc, juste, c'était pour vous donner un petit élément de contexte. Donc, dans ce contexte, les habitants, quand même, s'inquiètent de leur santé et ils vont jusqu'à occuper la DRAS, donc ce qui est devenu l'ARS et la CNAM, pour accéder à des données de santé. Donc, c'est assez inédit tout de même. Pour la petite histoire, ils sont évacués par les CRS. Et dans le même temps, on a des docteurs locaux qui expriment leurs difficultés, leurs frustrations pour obtenir des données de santé de la part de l'État. Je précise que ce n'est pas forcément que l'État ne veut pas donner les données, c'est que des fois, les données n'existent pas. Par exemple, le territoire national il est couvert à 20% seulement de registres du cancer. En région PACA, il n'y en a pas. C'est une des revendications locales, hein, des habitants. Et là, le préfet vient d'autoriser les registres de cancer. Donc, les questions posées par les habitants et qui nous sont posées et qui expliquent pourquoi Fosse-Epsteal naît, c'était, dans cette zone, sommes-nous autant moins ou plus malades que le reste de la population ? Et notre expérience quotidienne de la maladie correspond-elle à des données scientifiques ? Donc, en fait, ces questions, faut comprendre qu'elles sont clairement adressées à Barbara, et on lui demande de faire une étude de santé. Enfin, les habitants lui demandent. Donc, elle trouve un financement et nous faisons cette étude de santé. Alors, les résultats de l'étude de Fosse-Epsteal. Donc, on documente les événements de santé. Je vous montrerai quelques résultats. Dans les ateliers, on fait des recommandations à destination des pouvoirs publics. Alors, à l'issue du projet, on a eu une énorme couverture médiatique des résultats produits par l'étude. Alors je précise que le fait d'aller voir la presse, c'était pas forcément notre volonté, mais c'est les habitants qui l'ont demandé. Le rapport, il a été mis en ligne quand on a terminé l'étude, et en fait les habitants ont envoyé le rapport à peu près toute la presse au niveau local et national, ce qui a considérablement chargé notre activité. Et donc on a dû répondre, ma collègue et moi, à la presse. Ensuite on a été évalué par Santé publique France, qui est l'organisme tutelle des ARS. Alors, là-dessus, je dois faire une précision qui me semble assez importante. Comme nous avons on a un budget de 200 000 euros, ce qui correspond à peu près à 22 mois de contrat divisé par 2 personnes et demie. Ce qui veut dire que moi, sur le projet FACFCA, j'ai travaillé 8 mois et ma collègue 16 mois à temps plein. Ce qui est assez peu en termes de temps, vu l'ampleur du travail. Et donc, quand on a rendu notre rapport, on était aussi tellement pris dans la dimension participative et dans l'idée de produire un rapport accessible aux habitants qu'on a produit un rapport accessible aux habitants et aux tout lambda. Erreur fatale, puisque nous n'avons pas fait de rapport méthodologique à destination des scientifiques, ce qui nous a coûté très cher, puisque nous avons été évalués par Santé publique France, pour la petite histoire, 12 professionnels qui ont eu 1 an pour nous évaluer, qui nous ont posé des questions 2 fois, et on a eu très peu de droits de réponse. Donc, pour le deuxième volet dont j'ai la charge, nous allons remettre ce rapport méthodologique à qui le voudra bien, mais surtout à Santé publique France. D'un point de vue, alors pour nous en tant que scientifiques, si vous voulez, c'est vrai que c'est dommageable parce qu'on est critiqué, qu'il faut discuter, argumenter à chaque fois, mais ça c'est pas le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est pour les habitants en fait, puisque eux, on leur produit une étude scientifique et ils voient qu'elle est critiquée et parfois critiquable, et en termes de reconnaissance, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, dans les réunions publiques, je m'excuse de cet écueil que nous avons fait auprès des habitants. Alors, les résultats de santé, on voit que quand on a les données nationales, je vous les ai mis. Quand on les a pas, je ne vous les ai pas mis. Mais on voit que l'asthme cumulé, donc On est à 15,8% à Fos-et-Port-Saint-Louis et à 10% au niveau national, 26% d'allergies respiratoires et 14% d'autres problèmes respiratoires. Donc ça, c'est tout ce qui est BPCO, emphysème, plaques pleurales, mésothéliome, etc. Ensuite, concernant toutes les pathologies chroniques. Donc, toutes les pathologies chroniques, c'est toutes les pathologies qu'on a enquêtées, c'est-à-dire maladies endocriniennes, maladies auto-immunes, maladies respiratoires, cancer et diabète. Nous, on est à 63,6% des personnes qu'on a interrogées qui nous ont déclaré qu'un médecin leur avait diagnostiqué au moins une de ces pathologies. Au niveau national, on est à 36,6%. Concernant les diabètes, donc je précise que les questions posées étaient posées de la manière suivante. On ne disait pas « Bonjour, est-ce que vous avez de l'asthme ?» On disait « Bonjour, est-ce qu'un médecin vous a déjà diagnostiqué de l'asthme ?» Ça change tout du point de vue méthodologique. Les diabètes, on est à 4,7% au niveau national et nous, on est à 11,9%. Les maladies endocriniennes, autres que les diabètes, on est sur des parts équivalentes puisqu'on est à 10 et 11%. Et les maladies auto-immunes, on est à 6,9% et le chiffre national, il est environ de 7%, donc on est sur des choses assez équivalentes. Les cancers, on est à 6% au niveau national et on est à 10,8% au niveau de Fos et Port-Saint-Louis. Donc tous ces résultats-là, tels que je vous les présente, c'est comme ça qu'on les présente aux ateliers, avec d'autres résultats qui sont plus fouillés au fur et à mesure des ateliers. C'est à partir de ça qu'on discute. Alors juste un petit point sur le cas théorique et méthodologique. En gros, je vais demander qui sont les experts et pour quelles expertises, et on va faire une mise en application des ateliers. Combien de temps il me reste ?
5 minutes.
Ok. Alors je vais aller très vite. L'idée, c'est vraiment de pratiquer une collaboration entre les scientifiques et les citoyens pour produire un savoir et une science et de la connaissance utile et pertinente pour l'action publique. On est dans le thème et le champ théorique de la knowledge justice, qui est le fait de produire de la justice par l'accès à la connaissance, qui vient des États-Unis. Donc dans nos études, qui sont les experts ? Donc, vous avez d'abord les chercheurs, qui sont experts de la science et de ses enjeux. On fait aussi beaucoup d'épistémologie des sciences en atelier. Les médecins, qui sont experts de leur pratique clinique. Les citoyens, qui sont experts de leurs expériences. Et les citoyens qui sont aussi experts en production de la connaissance, puisque dans la zone, on a certaines associations qui produisent des données. Donc, ils vont faire des prélèvements, les amener dans les laboratoires, etc., etc. Alors, juste, il y a deux champs théoriques. Il y a les experts de l'expérience, donc c'est tout ce qui est, c'est Wayne et Calon. C'est plutôt l'histoire de la ville, des quartiers, les experts de leur propre corps, les experts de la maladie, les experts du travail en zone industrielle. Je précise que nous, on ne peut pas rentrer dans les usines et moi, je n'ai aucune compétence en termes de process industriel. Donc, travailler avec les travailleurs pour qu'ils nous expliquent au concret comment ça se passe, c'est très nourrissant. Ce sont des experts de la pollution, de l'environnement et de l'aérologie et des vents. Alors, les citoyens, comme je vous le disais, ils sont experts en production de la connaissance, et en analyse des études scientifiques. Ils analysent beaucoup les études scientifiques dans la zone. Et ils ont aussi un savoir critique de la science. Donc, dans une certaine mesure, la perspective, elle est foucauldienne. Foucault, je n'ai pas le temps de revenir dans le détail là-dessus, mais... En gros, Foucault, il disait qu'il fallait désensabler les savoirs vernaculaires et sortir de ces enjeux de domination de ces savoirs. Voilà. Et il nous dit aussi que, en fait, la question du profane, on est vraiment sur les enjeux savoir scientifique, savoir profane. Et en fait, c'est vrai que dans ce champ en santé environnement, en fait, les habitants peuvent, entre guillemets, rester devant le temple de l'épidémiologie, puisque l'épidémiologie est dominante. Il y a un certain pouvoir de la statistique et de la médecine. Je précise que c'est pour ça qu'on utilise aussi les méthodes épidémiologiques, c'est parce qu'elles sont reconnues dans le champ des sciences et dans les débats scientifiques. Voilà. Alors, je vais vous faire juste une petite étude de cas pour vous montrer qu'est-ce que ça peut produire des ateliers collaboratifs et comment on travaille. Alors, la première question du questionnaire, c'était en général, est-ce que vous diriez que votre santé, elle est excellente, bonne, médiocre ou mauvaise ? On avait 57% des habitants qui nous ont dit qu'elle était bonne et 15% qu'elle était excellente. Donc en gros, 72% des phocéens disent avoir une bonne santé. En parallèle de quoi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a à peu près 63% des phocéens qui est atteint d'au moins une pathologie chronique. Donc on s'est dit qu'il y avait un petit écart quand même. En tout cas, c'est dans les ateliers, les gens nous ont dit qu'il y avait un écart entre ces pathologies, cette part des personnes avec une pathologie et... le fait de se trouver en bonne santé. Donc on a discuté de ça. Alors dans les ateliers, on nous a dit, bon, ben en fait, il y a une espèce de normalisation de la santé et une banalisation de la maladie dans la zone. Il y a le fait, il y a quelqu'un qui nous a dit, je suis en bonne santé artificielle, ce qui veut dire qu'il savait prendre en charge sa santé. Et voilà ce qu'on nous dit, par exemple, sur cette thématique. Des fois, je me rends compte, j'oublie, par exemple, que je suis malade. J'ai des bronchites chroniques, mais ça fait tellement de temps que c'est comme ça. Je vis juste avec, et comme j'arrive à vivre avec, eh bien, je me trouve en bonne santé. Dans le même temps, on continue les analyses épidémiologiques, et on se rend compte que, quand même, plus les gens ont des pathologies, plus ils se déclarent en mauvaise santé dans notre questionnaire en tout cas. Donc il y a quand même, même s'il y a un écart au global, il y a une espèce de corrélation en fait entre le fait de cumuler des pathologies et de se dire en santé mauvaise ou médiocre. Dans le même temps, on va évidemment nous lire la littérature sociologique et économique sur le rapport à la santé en fonction des catégories sociales, et donc vous ne serez pas surprise, mais souvent, en fait, plus on est pauvre, moins on s'intéresse à son corps et à sa santé, en tout cas c'est ce que la littérature nous décrit, et donc les inégalités de santé sont plus importantes. Mais c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que du coup, on a des grands débats sur la question de la santé déclarée et la santé incarnée en épidémiologie. Et en gros, vous pouvez lire ce qu'il y a dans la diapo, mais ce qui nous est dit dans la littérature épidémiologique, c'est que les personnes qui se déclarent en mauvaise santé dans les zones industrielles, c'est parce qu'en fait, du fait de voir les industries, la pollution, etc., ça les angoisse, hein, et donc elles se déclareraient plutôt en mauvaise santé. C'est ça qui est dit dans la littérature épidémiologique. Nous, on travaille sur des questions de santé déclarée. Hein. Par exemple, il nous est dit, ces mécanismes de stress psychologique associés à des stimuli sensoriels constituent les hypothèses les plus vraisemblables de l'augmentation de la prévalence des symptômes à proximité des sites pollués. Dans cette approche biomédicale, la mesure de la santé par déclaration ne peut constituer la seule méthode d'acquisition des données et doit être complétée par des mesures objectives. J'ai souligné objectif, puisque ça veut dire que la santé déclarée n'est donc pas objective selon la littérature épidémiologique. Donc on dit des actions pédagogiques et participatives peuvent également être proposées pour limiter l'influence des attitudes comme l'inquiétude ou les croyances qui contribuent à l'altération de l'état de santé déclaré. Les actions doivent toutefois être portées en priorité sur la source de pollution en cherchant des solutions d'atténuation des facteurs qui conduisent à une dégradation de la santé comme les odeurs et le bruit en rétablissant l'aménité du paysage. Pourquoi je vous dis tout ça ? Où je veux en venir ? Je veux en venir sur le fait qu'en fait, dans la revue, enfin, dans la littérature épidémiologique, on nous dit que si les gens se déclarent plus malades, c'est parce qu'en fait, ils ont peur des industries parce qu'ils les voient, et c'est ça qui les rend malades. D'un point de vue scientifique et d'un point de vue politique, cette affirmation, elle a quand même certains enjeux, puisqu'en gros, ça voudrait dire on peut cacher les usines, on ne les verra pas, et les gens, ils seront moins malades. Et l'implicite, hein, le second implicite, c'est que, en fait, finalement, les gens ne sont pas si malades que ça dans les zones industrielles. Alors, en santé incarnée, et c'est la littérature scientifique, c'est Phil Brown sur l'épidémiologie populaire, je n'ai pas le temps d'y revenir dessus, mais lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Most importantly, people who have the disease have the unique experience of living with the disease process, its personal illness experience, its personal effects and its social ramifications. » Donc en fait, lui, il nous parle de santé incarnée et il prend pour argent comptant le fait que les personnes déclarent des événements de santé. Pour la petite anecdote, la question de la santé déclarée en épidémiologie et par exemple sur les critiques dont peuvent se saisir les pouvoirs publics, c'est qu'en fait, les habitants, ils auraient tendance à surdéclarer leur pathologie et en réunion publique, par exemple, à la préfecture, ça donne quoi ? Ça donne, oui, ben en fait, on parle de santé ressentie, on parle de santé déclarée en parlant de notre étude et donc, ça signifiait par exemple que les personnes qui nous avaient déclaré un cancer, hein, puisqu'on a quand même posé des questions sur les cancers, en auraient finalement moins que ce qu'ils avaient déclaré. Voilà. Je suis un peu lourde sur cette question, mais c'est important pour moi parce que les enjeux éthiques, politiques et scientifiques sont énormes en fait sur ces questions. Et donc, tout ça pour vous dire quoi ? Que en fait, le travail dans les ateliers, il a permis, un, de montrer qu'il y avait quand même une banalisation de la maladie et de la pathologie qui fait qu'on avait plutôt tendance à se déclarer en bonne santé. Le second point, c'était que, en fait, dans nos analyses épidémiologiques, on remarque que plus on cumule des maladies, plus on se déclare en mauvaise santé. Donc, en fait, il y a une espèce de congruence et de corrélation entre ce que les personnes vivent et ce qu'elles déclarent, ce qui va à l'encontre de la littérature épidémiologique telle que je vous l'ai citée. Comme je dois conclure, je ne vous parlerai pas de ceci. Je vous montrerai juste ce petit schéma. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ça va. Donc en fait, là, c'est le processus de production de la connaissance dans les méthodes participatives telles qu'on les pratique. Donc à gauche, vous avez les... À droite, vous avez... Non, je ne sais plus. Par là, voilà. Vous avez les savoirs ordinaires. Donc c'est l'expérience des symptômes et de la maladie, les savoirs sur l'environnement industriel et le savoir des experts locaux, notamment sur les vents, etc. À droite, vous avez le savoir des experts de la médecine et dans les ateliers, ça va discuter puisqu'on invite les experts, etc. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les experts de la médecine, ils vont se nourrir en fait de l'historiographie de la maladie. Ils vont identifier aussi des polluants grâce aux habitants qui vont décrire à quoi ils sont exposés, etc., etc. Et puis, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de symptômes qui sont invisibles pour les praticiens, qui vont émerger au cours des ateliers, puisqu'ils vont nous dire « Ah bah oui, mais moi, en fait, je vous parle des médecins, ils vont nous dire « Ah oui, c'est vrai, mais moi, en fait, je ne faisais pas attention à ce symptôme, alors que peut-être il pourrait être précurseur de quelque chose. » Ensuite, nous, on est le petit carré vert, là. Donc, nous, on se nourrit des savoirs locaux, des savoirs des médecins. Et dans tout ça, on va renvoyer à l'issue du processus toutes les questions épidémiologiques et de santé que ça a posées à l'épidémiologie plus classique et la recherche médicale. Pour conclure, normalement, dans les controverses environnementales, vous avez, ça a été évoqué tout à l'heure à la première présentation, vous avez d'un côté, en haut, donc les industriels, les pouvoirs publics et leurs experts qui sont à la table des négociations et des discussions. Et en dessous, vous avez les citoyens qui écoutent, se plaignent et protestent. Ça, c'est le schéma classique des controverses environnementales. L'idée de Barbara Allen, c'est de créer en fait cette structure de la knowledge justice où alors d'un côté, vous avez... L'État qui procure ses études via les ARS, l'ADREAL, etc., donc qui a ses outils scientifiques. Vous avez les industries qui ont leurs études, parce qu'ils produisent aussi des études scientifiques. Et en haut, vous avez les citoyens qui, en général, ne disposent pas d'outils en propre à eux scientifiques. Donc, une étude FCA, elle a pour but de produire un outil scientifique à destination des citoyens pour qu'ensuite ils puissent venir à la table des négociations où vous savez qu'on va se disputer sur les données, sur la manière dont elles ont été produites, etc. Et donc participer au débat. Je terminerai là-dessus. Merci.